L'hiver approche et les foyers vont devoir relancer leur chauffage. Mais quel système et quelle énergie choisir pour mon logement ? La LTE 69 est une association à but non lucratif qui a pour mission d'encourager, d'accompagner, de promouvoir et d'animer la mise en œuvre de la transition énergétique sur les territoires du Nouveau-Rhône en dehors de la métropole lyonnaise. Membre du réseau national France Rénov', porteuse d'un service public gratuit et indépendant sans intérêt commercial, la LTE 69 informe, conseille et accompagne les particuliers, les collectivités et les professionnels dans leur démarche d'économie d'énergie et leurs projets de rénovation dans le département. Une émission réalisée par nos confrères de Radio Calade qui ont reçu les conseillers de la LTE 69.
Je suis Julien Renucci et je suis en compagnie de Geoffrey, conseiller Habitat et Énergie à la LTE 69. Bonjour Geoffrey.
Bonjour Julien.
Donc dans cette rubrique, nous allons nous intéresser au chauffage. Comment bien chauffer votre logement tout en réduisant votre facture ? Quelle énergie choisir pour vous chauffer ? Le chauffage au bois est-il écologique ? Etc. Nous allons faire le point avec toi Geoffrey, mais avant, peux-tu nous dire un mot pour te présenter et présenter le métier de conseiller Habitat Énergie ?
Donc en effet, je suis conseiller en rénovation énergétique. Donc l'objectif de notre métier, c'est d'accompagner les particuliers dans leur projet de rénovation énergétique justement. Ça demande d'avoir une expertise dans l'énergie, forcément l'énergie de l'habitat, et en montage financier pour toute la question des aides financières. Dans notre métier, on a aussi besoin d'avoir une connaissance large du jeu d'acteurs, des professionnels de la rénovation énergétique pour orienter le particulier vers le professionnel qui correspondra à son projet.
Ok, merci. Alors, rentrons dans le vif du sujet. J'ai envie de te poser une question toute simple que tout le monde doit se poser. Quelle est l'énergie la moins chère pour se chauffer ?
Vaste question. Eh bien, finalement, l'énergie la moins chère reste celle qu'on ne consomme pas. Ça va de soi.
Mais j'ai déjà entendu ça.
Alors pour ça, on travaillera plus sur l'enveloppe du bâtiment pour faire effondrer en fait les consommations du ménage. Et pour ça, je renvoie vers une chronique qu'on a faite sur la rénovation globale et performante. Pour revenir dans le vif du sujet, on ne va pas prendre en compte seulement le prix de l'énergie, mais aussi tout ce qui va avec finalement l'investissement de base du système qui permet de produire de l'eau chaude sanitaire ou du chauffage et l'entretien de celui-ci. Ensuite, finalement, on n'a pas vraiment de boule de cristal pour savoir quel sera le prix de l'énergie dans 20 ans, par exemple. Pour autant, on a fait des mesures durant les 20 dernières années, justement, et on sait comment évolue le prix de l'énergie durant ces 20 dernières années, et on applique des hypothèses sur les 20 prochaines, par exemple.
Ça augmente plutôt, non ? Il me semble. En tout cas, ces derniers mois, c'est ce qu'on nous dit, c'est ce qu'on constate. Qu'est-ce que vous constatez, vous, depuis les 20 dernières années que vous analysez le prix de l'énergie, justement ?
Bien, on a une augmentation continue des différentes énergies. Globalement, les énergies fossiles, donc comme le propane, le gaz, ou bien même le fuel, vont avoir tendance à augmenter plus vite que des énergies renouvelables ou énergies électriques. Dans tous les cas, toutes les énergies ont une tendance à la hausse d'environ 4% par an.
4% par an, c'est bien moins, semblerait-il, que ce qu'on vient de vivre cet hiver. Mais sur le long terme, ça commence à faire, non ?
Si on fait une simulation, par exemple, sur 20 ans, et qu'on applique 4% d'augmentation du prix de l'énergie par an, sur 20 ans, ça double le prix de l'énergie.
Ah oui, donc si je payais 1500 euros d'énergie il y a 20 ans, aujourd'hui, je paye 3000 euros.
Exactement.
Oui, donc si je gagnais 1500 euros il y a 20 ans et que je ne gagne pas 3000 euros aujourd'hui, je dépense plus d'argent dans ma facture énergétique qu'auparavant.
C'est une perte de pouvoir d'achat.
D'accord. Alors, tu nous disais qu'il faut bien prendre en compte le système de chauffage, donc l'investissement, l'entretien, le coût de l'énergie. Je repose ma question, quel est le système le plus adapté à l'heure actuelle alors ?
Eh bien, ça va dépendre des consommations. Je vais prendre un exemple. Un particulier a une maison de 100 mètres carrés qui n'est pas rénovée avec des consommations énergétiques relativement importantes. S'il ne fait pas de geste d'isolation pour faire justement effondrer ses consommations, eh bien, il va peut-être simplement changer son système de chauffage central, passer d'une chaudière fuel à une chaudière granulée. Pour autant, si ce même particulier effectue des gestes d'isolation pour faire effondrer ses consommations, eh bien là, on va pouvoir peut-être uniquement partir sur un système de poêle à bois, poêle à granulés, et finalement se passer de son système de chauffage central.
Donc on peut chauffer une maison en entier avec simplement un poêle.
Bien sûr, si on part sur une rénovation globale et performante, niveau BBC, c'est tout à fait possible.
On parle justement de poêle. Je pense qu'on peut faire un petit focus sur le bois énergie, qui est un sujet qui peut prêter parfois à la polémique. D'un côté, on nous dit qu'il faut préserver nos forêts, voire planter des arbres. Et toi, Geoffrey, tu nous dis qu'il faut brûler du bois. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu sur cette contradiction apparente ?
Alors, oui, brûler du bois, oui, mais pas n'importe comment. Hein. Brûler moins, mais brûler mieux. Sur le bois, donc, il faut savoir que la combustion du bois émet du CO2. Hein, jusqu'ici, ce n'est pas une très grande nouvelle. Dans des quantités qui sont, finalement sont comparables à celles émises lors de sa décomposition en forêt. Et finalement, cette quantité de CO2 correspond à celle qui a été absorbée par l'arbre lors de sa croissance, qu'on appelle du coup la photosynthèse. Il existe donc du coup pour toute la biomasse un équilibre naturel entre émission, absorption du CO2, tant que celle-ci n'est pas surexploitée. Forcément, si on rase toutes nos forêts et qu'on continue à brûler du bois, la balance sera négative.
Donc le bilan CO2 du bois énergie, il est plutôt neutre en France en ce moment.
Mmh.
C'est ça.
C'est ça.
Tu disais qu'il ne faut pas brûler n'importe comment non plus du bois, c'est-à-dire qu'il faut utiliser des appareils performants.
Aujourd'hui, sur les appareils indépendants tels que le poêle à granulés ou le poêle à bûche, ou bien même les chaudières à bûche ou les chaudières à granulés, il y a un label qui a été mis en place qui s'appelle Flamme Verte 7 étoiles qui certifie en fait les émissions de CO2 de ces équipements hein, dans des seuils qui sont raisonnables. Maintenant, on ne va pas prendre uniquement en compte ce label-ci, parce que si j'ai un appareil labellisé qui, normalement, émet peu de CO2, mais que je viens brûler du bois dans cet appareil qui serait trop humide ou du bois qui serait traité, et bien forcément, là, je vais émettre plus que ce qui est inscrit dans ce label. Et finalement, en fait, on ne va pas prendre uniquement en compte ce label Flamme Verte 7 étoiles, hein, parce que les émissions de CO2 vont aussi dépendre de la combustion de ce même appareil. Si on brûle du bois trop humide ou avec un apport d'oxygène trop ou pas assez important, et bien finalement, on a des risques d'émettre plus de poussière, de monoxyde de carbone et des composés organiques volatiles. Donc c'est important de bien savoir allumer son poêle ou sa chaudière. Et là, je renvoie du coup les particuliers vers notre site internet, donc alte69.org, où on a différentes rubriques hein, qui permettent de savoir comment bien utiliser son appareil indépendant au bois.
Ok, donc trois choses, l'appareil, le combustible, le bois de chauffage donc, et le comportement. Pour finir le crochet sur les énergies renouvelables, est-ce qu'il est possible de se chauffer avec l'énergie du soleil, avec le solaire?
Avec le solaire. Est-ce que tu me parles du coup de production d'électricité ou plutôt de production de chaleur? Parce que ça va être deux systèmes qui vont être tout à fait différents. D'ailleurs, sur la production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques, hein, on a fait une chronique à ce sujet. Mais du coup, là, on parlera peut-être sans doute plus du solaire thermique.
Oui, ça doit être ça. Donc, c'est possible.
Exactement. Alors, en fait, on va pouvoir produire de la chaleur via des systèmes, donc des systèmes solaires, que ce soit du SSC, système solaire combiné, où là, on va pouvoir produire de la chaleur pour le système de chauffage et pour la production d'eau chaude sanitaire. Et on va avoir le chauffe-eau solaire individuel, où là, on va produire de la chaleur uniquement pour la production d'eau chaude sanitaire.
RVR, la radio qui vous...
Très bien, merci. Donc, on vient de voir les énergies renouvelables, le bois, le solaire, qui peuvent produire de la chaleur. Si je reviens sur les énergies un peu plus classiques, aujourd'hui, on a l'impression que chaque fournisseur se revendique comme étant une solution gagnante pour l'environnement. On parle d'énergie verte, des offres vertes. On entend parler donc d'électricité verte, de gaz ou de biogaz et d'offres vertes. Donc, dans ces deux cas-là, est-ce que tu peux nous en dire un mot?
Eh bien déjà, il faut définir ce que c'est une énergie verte, hein, premièrement. Une énergie verte, hein, c'est une énergie qui est dite verte lorsqu'elle est à la fois propre et renouvelable. C'est-à-dire qu'elle provient de sources durables et qu'elle n'émet pas ou très peu d'émissions de gaz à effet de serre. Maintenant, pour ce qui est par exemple de l'électricité, eh ben, ça va être de l'électricité qui va être produite grâce aux éoliennes, grâce au photovoltaïque ou à l'hydraulique.
D'accord. Et pour le... Biogaz alors à ce moment-là ?
Pour le biogaz, on va plus être du coup sur du gaz qui provient de la méthanisation.
D'accord, et qui peut être injecté sur le réseau et consommé directement par les citoyens.
Exactement, c'est ce qui est à l'heure actuelle fait.
Très bien, c'est donc ça qu'on appelle les offres vertes.
Mmh. Et si un particulier souhaite souscrire à ce type d'offre, il a la possibilité d'aller sur le médiateur de l'énergie, qui recense en fait toutes les différentes offres des fournisseurs d'énergie, et on va pouvoir choisir un fournisseur qui propose une offre verte, que ce soit pour de l'électricité ou même du gaz.
D'accord, merci donc pour la présentation de l'éventail de toutes ces possibilités techniques. Tu l'as dit toi-même, l'énergie la moins chère, c'est celle qu'on ne consomme pas. Est-ce qu'au final, la meilleure solution, ça ne serait pas de se passer de chauffage ? Il paraît que c'est possible.
Oui. Alors oui, c'est possible. Encore une fois, ça va dépendre de ton logement hein, et de la rénovation de celui-ci. On peut avoir l'exemple hein, des rénovations passives qui, du fait de leur ou construction ou rénovation, ont un besoin d'un apport de chaleur extrêmement minime. Et finalement, rien que le fait d'occuper ces lieux... va suffire à chauffer ce logement, en prenant en compte l'environnement, les apports solaires, etc.
D'accord, donc ça c'est surtout possible pour le neuf, et j'imagine qu'il faut vraiment l'envisager dans un projet de construction neuve. Mais comme tu l'as dit, en rénovation, en tout cas, on peut réduire à tel point qu'un simple poêle peut chauffer tout un logement.
Absolument.
Ok, donc se chauffer moins, c'est bon pour le portefeuille, c'est bon pour la planète, tu nous l'as dit. Ça serait même bon pour le réseau électrique. Sur ce dernier point, on a beaucoup entendu parler de la campagne EcoWatt, lancée par le gestionnaire de réseau d'électricité, RTE. Tu peux nous en dire un mot ?
En effet, hein, c'est passé sur toutes les différentes actualités, la campagne EcoWatt. Donc, c'est un système qui permet d'avertir le particulier en cas de surconsommation électrique et d'envoyer un message, entre guillemets, d'alerte hein, pour baisser ou décaler en fait sa consommation électrique.
D'accord, donc ça dépasse largement la question du chauffage.
Bien sûr, là on est plus sur la sobriété énergétique, hein, où finalement des petits gestes au quotidien permettent de faire des économies assez notables. Et c'est ce qu'on a pu observer cet hiver, où on a eu une baisse de la consommation électrique en France, hein, notamment des particuliers, mais aussi des entreprises, qui a aussi permis de préserver notre réseau électrique.
Très bien, donc je reviens sur le cas concret du choix de chauffage. Hein. Je me mets dans la peau d'un ménage. J'ai bien compris qu'il y avait différentes sources d'énergie possibles, différentes technologies. Mais comment savoir lequel est le plus adapté ? Comment choisir entre pompe à chaleur, chaudière gaz ou chaudière à granulés, par exemple ?
Eh bien, le particulier va avoir la possibilité de prendre rendez-vous avec un conseiller de la LTE 69 pour effectuer une simulation de chauffage qu'on appelle chez nous une simulation Thermix, d'où le logiciel en fait Thermix.
Thermix, ok.
Exactement. L'objectif hein, de cette simulation, c'est de comparer différents systèmes de chauffage en prenant en compte l'investissement, en déduisant les aides financières, le prix de l'énergie de cet équipement et en faisant du coup varier l'augmentation du prix de l'énergie, on l'a évoqué juste avant, et l'entretien, parce que forcément, un poêle ne va pas avoir le même entretien qu'une chaudière.
Donc, d'accord.
En comparant ces différents systèmes, on arrive à un résultat économique sur 20 ans et bien généralement, on va prendre celui qui est le plus rentable financièrement parlant.
D'accord. Il y a une approche environnementale également pour ceux que ça intéresse.
Exactement. J'allais y venir. En effet, on va aussi prendre en compte cette donnée hein, qui est vraiment importante en comparant ces mêmes systèmes avec, par exemple, la chaleur renouvelable. Si on est sur une énergie au bois, on va être sur une énergie qui est dite renouvelable, donc on va avoir une proportion de chaleur qui sera issue d'énergie renouvelable plus importante. Forcément, ça va être plus important si on est sur du bois que sur du fioul.
D'accord, donc une analyse économique et environnementale. Donc après cette petite étude, il faut passer à l'installation. La LTE 69, vous ne faites pas d'installation, comment faire ?
Eh bien, le particulier peut aller vers un annuaire des professionnels qualifiés qu'on appelle annuaire RGE pour reconnu garant de l'environnement. Le but de cet annuaire, c'est, je vais expliquer globalement comment ça se passe. Le particulier va mettre son code postal avec sa ville, ensuite le rayon de recherche, donc ou 5 ou 10 ou 20 km, on est vraiment sur un maillage relativement serré, hein. Et ensuite il va pouvoir choisir le poste de travaux qu'il souhaite effectuer. Donc, soit une pompe à chaleur, une chaudière granulée, un poêle à bois, etc.
D'accord.
Et là, il va pouvoir trouver tous les artisans qui se situent ou à 5, ou à 10, ou à 20 km autour de chez lui, qui effectuent le poste de travaux désiré.
Très bien, donc passer par un artisan qualifié RGE, c'est nécessaire, c'est peut-être pas suffisant. Quels autres outils vous pouvez proposer aux ménages pour garantir la qualité de leur projet ?
Eh bien, une fois que le ménage a effectué ses consultations auprès des entreprises, déjà, il a la possibilité de nous envoyer ses devis. Comme ça, nous, on fait une vérification technique et on vérifie aussi si le devis est éligible aux aides financières.
Oui.
Une fois ça, à la réception des travaux, il a la possibilité de télécharger des fiches qu'on appelle AQC, qui permettent de voir avec le professionnel et le particulier quels travaux ont été réalisés, est-ce que c'est conforme à ce qui a été préconisé de base.
D'accord, donc ces fiches AQC comme Agence Qualité Construction, merci. Donc tu l'as dit, il y a des aides financières aussi, donc il faut que l'installateur soit agréé. Il y a d'autres choses à savoir sur ces aides financières, c'est compliqué.
Ça dépend ce que tu entends par, compliqué. En effet, premièrement, il faut que l'artisan soit RGE. Deuxièmement, il faut que son devis soit éligible. Les artisans ne sont pas toujours au courant de toutes les notions qui doivent être inscrites dans un devis pour qu'il soit éligible. C'est pour ça que nous, on met de la ressource, on donne de la ressource au particulier pour finalement pouvoir de lui-même analyser son devis.
D'accord, et vérifier l'éligibilité. Ok.
Absolument. Et pour revenir sur les aides financières, donc il y a des aides financières. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux aides financières. Maintenant, elles vont varier en fonction de la composition du ménage et du revenu fiscal de référence.
D'accord. Et de la localité aussi, puisque il y a des aides locales par endroit, et par endroit, il n'y en a pas, c'est ça ?
C'est ça. Sur certains territoires du Rhône, on va avoir des aides locales. Et dans tous les cas, ce qui est important, c'est de faire le point sur les aides financières avant de signer le devis. Parce que vous avez certaines aides financières qui vont être à demander en fait avant signature de devis et d'autres avant démarrage des travaux. Mais voilà, faire le point sur les aides financières, des droits des particuliers avant de s'engager.
Donc je retiens qu'avant de faire un choix technique ou pour planifier économiquement son projet, il faut vous appeler la LTE 69, les conseillers Habitat Énergie, le plus tôt possible. Et donc avant de se lancer dans les travaux, on peut retenir qu'il est urgent de commencer à réfléchir avant de passer à l'action. Donc comment vous joindre, Geoffrey ?
Eh bien, déjà, on peut aller sur notre site internet, donc ALTE69.org, rubrique contact. Donc là, il y a un petit formulaire de contact à remplir pour pouvoir commencer à être accompagné par notre service. Ou bien par téléphone, au standard téléphonique, en fait, hein, au 04 37 48 25 90. On est ouvert toute la semaine, donc de 9h à midi, de 14h à 17h, sauf le lundi après-midi.
Très bien, donc vous devez être submergé de demandes. On va quand même arriver à vous joindre.
Alors, on a 6 jours maximum pour répondre à une demande. Globalement, la plupart du temps, déjà, il faut le dire qu'on a un taux d'accessibilité au téléphone très important. Donc, il y a de grandes chances que vous arriviez à nous joindre très facilement. Si jamais ce n'est pas le cas, vous pouvez nous laisser un message vocal et on a 6 jours pour vous répondre, que ce soit un message vocal, un mail, un formulaire de contact ou autre.
Oui, ce qui paraît tout à fait raisonnable au vu des projets dont on vient de parler. Merci Geoffrey, est-ce que tu as quelques événements à partager avec les auditeurs ?
On effectue aussi des visites de sites qui permettent aux particuliers qui souhaiteraient s'engager dans une rénovation globale et performante de voir comment on a pu accompagner le particulier qui ouvre ces lieux et communiquer ensemble.
Eh bien, merci Geoffrey pour cette interview et toutes ces informations précises. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site ALTE69.org ainsi que sur nos réseaux sociaux Facebook et LinkedIn. Cette chronique ainsi que les 2 autres chroniques sur la rénovation globale et le photovoltaïque réalisées en présence des conseillers de l'ALTE69.
Une émission réalisée par Radio Calade en présence des conseillers de l'ALTE69. Les autres chroniques consacrées à la rénovation énergétique globale et à l'énergie solaire sont disponibles en podcast sur notre site internet rvrradio.fr. Notez également que la LTE 69 sera présente lors du premier forum de la rénovation de l'habitat organisé par la communauté d'agglomération de l'Ouest rhodanien les 27 et 28 octobre prochains à Amplepuis. Retrouvez plus d'informations et de conseils pratiques sur le site de l'ALTE 69, www.alte69.org et par téléphone au 04 37 48 25 90.